Voici maintenant le dernier conte de mon recueil de contes populaires français. Il est un peu long, mais c'est mon conte préféré. Il s'appelle Jean le Teigneux et c'est un conte de Haute-Bretagne. Il y avait une fois, par une bonne foi, un homme et une femme très âgés. L'homme avait 80 ans et la bonne femme 70. Comme ils se désolaient de n'avoir pas d'enfant, il leur vint enfin un petit garçon. Il est bon de vous dire que le mari dit à sa femme « Nous trouvons bien une marraine, mais je ne sais où prendre un parrain. » La femme lui répondit « Il faut cependant que tu ailles chercher un parrain. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. » Son chemin faisant, le bonhomme rencontra un beau monsieur qui lui dit « Bonjour monsieur, où allez-vous comme cela ?»«
Ma foi, je m'en vais à la recherche d'un parrain. Ma femme vient d'avoir un petit garçon. J'ai bien trouvé une marraine, mais je ne sais où prendre un parrain.
Voulez-vous que je sois le parrain de votre enfant ?»
Le bonhomme, voyant le monsieur si bien habillé, lui répondit « C'est pour vous moquer de moi que vous me proposez cela ?»«
Non, dit-il, c'est bien vrai. Je veux être le parrain de votre garçon. »
« Eh bien, suivez-moi, je vais vous conduire au logis. » Quand l'enfant fut habillé, on le porta au bourg pour le baptiser. Le parrain fouilla dans sa poche et dit
« Tenez, voilà 1000 francs. Achetez de quoi souper, car nous mangerons ensemble ce soir. »
Mais il est bon de vous dire qu'en ce temps-là, le parrain n'avait pas besoin d'entrer à l'église. Et il dit à la marraine
« Entrez dans l'église et donnez un nom à l'enfant. J'ai des affaires à régler, je vous rejoindrai ensuite. »
La cérémonie terminée, toute la compagnie s'en retourna à la maison pour le repas de baptême. Et comme la cuisinière avait reçu 1000 francs, les oies et les poulets fumaient sur la table, rien ne manquait. Et les petits cochons rôtis couraient par les rues, des fourchettes sur le dos et la moutarde derrière, et on courait après pour les attraper si on pouvait. Après le souper, le parrain fit ses adieux aux parents et leur dit
« Vous enverrez mon filleul à l'école, aussitôt qu'il saura marcher tout seul, dans un mois à peu près. »
« Comment ?» dit le bonhomme. « Dans un mois ?»«
Oui, oui, » répondit le parrain. « Vous pouvez être sûr que dans un mois, il marchera tout seul. Et dans un an et un jour, je reviendrai le chercher. »
Il est bon de vous dire qu'au bout de 8 jours, l'enfant disait « papa et maman » et qu'au bout de 15 jours, il trottait partout et parlait de tout comme une grande personne. Au bout d'un mois, on l'envoya à l'école. Le premier jour, il a pris l'alphabet. Le lendemain, il apprit à lire et le troisième jour, à écrire. Une semaine après, on lui fit faire des dictées. Le mois suivant, des opérations. Et à la fin de l'année, il était plus savant que son maître. C'est alors que le parrain revint à la cabane de son filleul. Mais comme les parents ne l'avaient pas revu depuis 1 an et 1 jour, ils ne le reconnurent pas.
« Comment ?» dit le parrain. « Vous ne me reconnaissez pas ?»«
Non, monsieur, je ne crois pas vous avoir jamais vu. »
« Vous ne savez donc pas que c'est moi le parrain de votre enfant ? Comment va mon filleul ?»
En entendant cela, les gens lui firent fête et l'invitèrent à dîner. Le parrain dit à son filleul
« Comme tu as grandi, as-tu un peu d'instruction ?»«
Ah !» répondit Jean, « oui mon parrain, il y en a plusieurs qui ont de la barbe au menton et qui n'en savent pas aussi long que moi. » Alors le parrain dit aux parents
« Mon filleul va venir avec moi. »
« Oh !» répondirent-ils, « nous ne pouvons pas nous séparer de notre cher petit gars. »«
Ne craignez rien, il n'aura pas grand-chose à faire. Il sera simplement chargé de garder mon château quand je serai absent. »« Jean, il nous faut partir. Embrasse ton père et ta mère et dis-leur au revoir. »
Jean fit ses adieux à ses parents et leur dit, « ne pleurez pas, dans 1 an et 1 jour, je reviendrai vous voir. » Voilà le parrain et le filleul qui se mettent en route. « Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. »«
Sommes-nous bientôt arrivés, parrain ?»«
Non, pas encore. Marche toujours. »
Pour la seconde fois, Jean, qui commençait à s'impatienter, demanda si la route était encore longue.
« Ah !» dit le parrain d'un ton sévère. « Tu vas finir par m'ennuyer avec tes questions. »
Jean, tout penaud, se tut un long moment. Enfin, n'en pouvant plus,
« Sommes-nous bientôt arrivés, parrain ?»«
Bientôt !» dit le parrain.
Et peu de temps après, ils arrivèrent devant le portail d'un grand château. Le parrain mena d'abord son filleul à l'écurie, qui hébergeait 2 chevaux et 1 mule.
« Je suis obligé de m'absenter souvent pour mes affaires. C'est toi qui seras le gardien de ce château. Et un jour, il t'appartiendra. »« Ah, pensa le filleul, c'est moi qui serai riche alors. En attendant, continua le parrain, voilà quelle sera ta besogne. Tu auras bien soin de ces deux chevaux, tu leur donneras de l'avoine, du foin, de l'eau fraîche et du pain de temps en temps, afin qu'ils soient toujours en bon état. Et malheur à toi s'ils viennent à pâtir.
Entendu, dit Jean. J'aurai si bien soin de la mule.
Non, dit le parrain. Au lieu de lui donner de l'avoine, tu la battras chaque jour avec un gros bâton.
Mais si je ne lui donne rien à manger, elle va mourir de faim.
N'aie pas peur. Elle a la vie plus dure que toi et moi. Soigne bien les chevaux et tout ira bien. Mais si tu oublies de battre la mule, prends garde à toi, car je le saurai. Maintenant, nous allons entrer dans le château.
Quand ils furent arrivés dans le grand salon, le parrain dit à Jean.
Voici une petite baguette. Quand tu auras besoin de quelque chose, il te suffira d'en frapper 3 coups sur la table en disant « Par la vertu de ma petite baguette, je désire ceci ou cela. » Et tu auras aussitôt ce que tu as demandé.
« Dame, s'écria le filleul, voilà qui est bien commode. Avec cela, on peut se passer de cuisinière. »
Le parrain prit la petite baguette et la frappa 3 coups sur la table en disant
« Par la vertu de ma petite baguette, qu'il me soit apporté du bouillon de pot-au-feu. »
Et la soupe fut servie à l'instant. Il demanda ensuite un ragoût, un rôti et tout ce qu'il faut pour faire un bon dîner. Et au dessert, on eut de la pâtisserie en abondance.
« Maintenant, nous fumerions bien un bon cigare. »
Il frappa la table de sa baguette et ils eurent aussitôt des cigares et des allumettes. Pendant que le parrain fumait son cigare, on lui apporta une dépêche et il dit à son filleul
« Une affaire pressante m'oblige à te quitter pour 48 heures. Je te laisse la petite baguette. Surtout, n'oublie pas les chevaux et la mule. Tu n'as pas encore visité le château. Voici 100 clés qui ouvrent les 100 chambres. Tu pourras en visiter 99, mais je te défends bien de mettre les pieds dans la 100e. Si tu y entres, prends garde à toi, car je le saurai. »
Quand son parrain fut parti, Jean se mit à visiter les chambres. Il est bon de vous dire que les clés étaient numérotées. La première chambre était pleine d'or, la seconde remplie d'argent, la troisième contenait des bijoux. Et plus il allait, plus il voyait d'objets précieux. « Ah, oh, se dit-il, si cela continue, je ne suis pas prêt d'arriver à la dernière chambre. » Il était si occupé à regarder tout cela qu'il ne songeait plus à ses chevaux et à la mule. Il finit tout de même par y penser et alla à l'écurie, bouchonna et tria ses chevaux, leur donna de l'avoine et du foin. Puis il prit un bâton et n'épargna point les coups à la mule qui sautait dans l'écurie à faire pitié. « C'est dommage tout de même, se dit Jean, de frapper une si jolie petite mule. Et je le ferais pas si mon parrain ne me l'avait pas demandé. » Quand le parrain fut de retour, il lui demanda s'il avait bien fait son service. « Oui, dit-il, j'ai battu la mule si fort que j'en avais pitié. »«
Il ne faut pas avoir pitié de cette bête-là. Continue à la frapper. As-tu visité toutes les chambres ?»«
Non, il m'en reste encore quelques-unes à voir. »«
Surtout, fais attention à ne pas entrer dans la 100e. Je t'en avertis pour la 2e fois. »
Ils allèrent dîner et le repas leur fut servi grâce à la petite baguette. Mais au dessert, le parrain reçut une dépêche qui l'obligeait à s'absenter pour 8 jours.
« Mon filleul, dit-il, il faut encore que je m'en aille pour 1 semaine cette fois. Fais ton service comme de coutume et surtout ne ménage pas la mule. »
Son parrain parti, Jean continua à visiter les chambres. Plus il allait, plus c'était beau. Et quand il arrivait à la 100e, il se dit « Celle-ci doit être encore plus curieuse que les autres. Il faut que je voie ce qu'il y a dedans. » Il ouvrit la 100e chambre et aperçut des corps dont les uns étaient pendus au plafond, tandis que les autres, sur le plancher, couchaient dans leur sang. Effrayé à la vue de ce spectacle sanglant, il referma la porte à toute hâte et courut à l'écurie soigner ses chevaux. Et quand il les eut pansés, il se mit à frapper la mule.
« Ah !» lui dit-elle, « au lieu de me battre, tu ferais mieux de me donner à boire et à manger. Sais-tu ce que tu viens de faire ?»«
Tiens !» « Est-ce que les mules parlent maintenant ?»«
Oui, répondit-elle, et c'est pour ton bien. Tu n'as pas de temps à perdre. Tu es allé dans la 100e chambre malgré la défense de ton parrain. Qui as-tu vu ? Des pendus et des cadavres baignant dans leur sang. Eh bien, ce sont tous les domestiques qui sont venus ici avant toi. Et toi, si tu ne fais pas ce que je vais te dire, bientôt tu seras comme eux. » « Ah, dit Jean, je vais t'écouter, ma mule. » Il la soigna de son mieux, remplit sa mangeoire d'avoine et lui mit du foin jusqu'au ventre. Puis il alla frapper les chevaux à tour de bras sur les conseils de la mule. « Ton parrain, ajouta-t-elle, a encore 5 jours à rester dehors. Es-tu allé te promener dans le jardin ?
Oui.
As-tu aperçu une cloche suspendue à un pommier et une fontaine placée dans un coin ?
J'ai vu tout cela.
Eh bien, fais attention à ce que je vais te dire et n'oublie rien, car ton parrain va bientôt arriver. Tu vas prendre tous les draps de lit qui sont dans la lingerie et entourer le battant de la cloche et l'attacher solidement. Car cette cloche sonne quand il y a de nouveau au château et ton parrain peut l'entendre, serait-il à 1000 lieues d'ici. Quand tu l'auras bien attaché, tu te plongeras jusqu'au cou dans la fontaine et tu reviendras ici, laissant là l'or et l'argent et sans prendre la moindre chose qui ne t'appartient pas.
Pourtant, dit Jean, je voudrais bien prendre la petite baguette.
Non, garde-t'en bien et viens me rejoindre au plus vite, car nous n'avons pas de temps à perdre. Quand Jean eut fait tout ce qu'on lui avait prescrit la mule, il revint à l'écurie et lui dit. Et elle lui dit, « Maintenant, mets-moi sur le dos cette vieille selle et à la bouche cette vieille bride.
Si je te mettais plutôt cette belle bride et cette superbe selle, tu aurais plus fière allure.
Non, fais ce que je te dis et je vais tâcher de te délivrer. » Quand la mule fut scellée et bridée, elle lui dit, « Prends ton étrille, prends ta brosse, prends ton bouchon, saute sur mon dos. » Alors, la mule sortit dans la cour et sans attendre que la porte soit ouverte, elle sauta par-dessus le portail. Les voilà en route. Marche aujourd'hui, marche demain, à force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Et ils se dirigeaient vers la Terre Sainte. Au bout de quelque temps, la mule lui dit, « Retourne-toi et regarde si tu ne vois rien, car ton parrain sait maintenant que nous sommes partis. À force de battre, la cloche a coupé les cordes et les draps du lit. Et il a un cheval qui va plus vite que nous. S'il met la main sur nous, nous sommes perdus. Ne vois-tu rien venir ?
Non.
Tu ne vois rien ? Demanda la mule quelque temps après.
Non.
Vois-tu quelque chose maintenant ?
Oui, je vois une fumée qui vient par derrière nous.
Fais bien attention à ce que je vais te dire. Prépare ton bouchon.
Va-t-il bientôt nous rattraper ?
Ah, ma mule, il nous touche. Jette ton bouchon.
Aussitôt, un étang se creusa devant eux. Étroit et long, car il avait 100 lieues de tour. La mule sauta lestement par-dessus et arriva à l'autre rive. Mais le parrain ne pouvait la traverser et il dut en faire le tour.
« Ah !» dit la mule au bout de quelque temps. « Il nous reste encore 2 obstacles à surmonter, car elle va plus vite que nous. Retourne-toi, regarde bien si tu le vois venir. »«
Je ne vois rien. »«
Aperçois-tu quelque chose ?»«
Non. »
Le vois-tu revenir maintenant ? Oh, j'aperçois un feu et une fumée. Le feu est dans l'air. Je n'ai jamais vu chose pareille. Nous sommes perdus.
Ah, dit la mule. Il est plus à craindre que la première fois.
Le vois-tu approcher ?
Oui, jette ta brosse.
Dès que la brosse eut touché terre, il se présenta à une forêt aussi épaisse que l'étaient les poils de la brosse. Elle avait 30 lieues de tour et était large 1 lieue seulement. La mule la traversa par le milieu, tandis que le parrain était obligé de la contourner.
« Nous avons encore un obstacle, » dit la mule.
« Le vois-tu venir ? » ?»«
Non. » »«
N'aperçois-tu rien ? » ?»«
Je ne vois rien. » »«
Le vois-tu maintenant ? » ?»«
Oui, je le vois venir comme des coups d'éclair, et il a l'air plus terrible que les autres fois. »«
Ah, le voici sur nous. » »«
Jette ton étrille. » À l'endroit où était tombée l'étrille, s'éleva une montagne qui avait 1 kilomètre de hauteur et 10 kilomètres de tour. La mule la gravit, mais le cheval ne pouvait pas monter car il était trop lourd.
« Surtout, regarde bien derrière toi, » dit la mule, « car c'est maintenant la dernière et la plus dure épreuve. »«
Je ne le vois pas. »
La mule marchait vite, marchait longtemps, marchait toujours.
« Ah, dit Jean, le voici qui arrive sur nous. Je ne le vois plus, je ne vois plus rien, ni terre ni ciel. »
Comme la mule sautait par-dessus le petit ruisseau qui bornait la Terre Sainte, le parrain, qui était le diable en personne, arrivait sur eux.
« Ah, dit la mule, il était temps, car je n'en pouvais plus. »
Comme la mule traversa la rivière, le diable emporta la moitié de sa queue qui dépassait du ruisseau.
Le parrain de Jean lui cria « Coquin, il était temps que tu te sauves, car si je t'avais attrapé, tu aurais été prendre place au milieu de ceux que tu as vus dans la 100e chambre. »
« Grand merci, parrain, » répondit Jean, « mais je suis aussi fin que toi. Tu as été pris et moi, je suis sauvé. »
« Eh bien, Jean, » lui dit sa mule, « te voilà tiré d'affaire. « Je vais te quitter, mais tu es capable et intelligent et tu peux continuer ta route tout seul. »«
Ah, ma mule, est-ce que tu vas m'abandonner ?»«
Oui, mon ami, mais écoute un dernier conseil. Depuis que tu t'es plongé dans la fontaine, tes cheveux sont comme de l'or. Tu les couvriras d'un bonnet comme si tu avais la teigne, afin qu'on ne les voie pas.
et tu iras demander au roi s'il a besoin d'un jardinier. Mais je n'ai jamais appris le jardinage. Va sans crainte. Voici une petite baguette. Quand tu auras besoin de moi, tu frapperas la terre en disant « Par la vertu de ma petite baguette, à moi ma mule !» Et j'accourrai aussi vite que la parole. Jean dit au revoir à sa mule et l'embrassa, puis il alla au château du roi. « Bonjour, sire, vous n'auriez pas besoin d'un garçon jardinier ?»«
Si, justement, le garçon jardinier est parti hier. Je serais bien aise que tu le remplaces, parce que le maître jardinier a trop à faire pour un seul homme. »
« Vous ne pouviez pas trouver mieux que moi, » dit Jean.
« Passe à la cuisine, » dit le roi, « et quand tu auras déjeuné, tu iras au jardin, trouver le maître jardinier. »«
Maître jardinier, » dit Jean, quand il eut mangé, « je suis à vos ordres. Le roi m'a gagé pour remplacer le garçon qui est parti hier. Avez-vous de l'ouvrage à me donner ?»
Le maître jardinier, qui était dur et jaloux, lui dit, « Voici une vigne qu'il faut tailler. »
Mais il ne lui donna qu'un méchant couteau de bois. Jean essaya bien de tailler la vigne, mais il n'y réussit pas. Et de colère, il arracha la vigne et vint trouver le maître jardinier. Quand celui-ci vit la vigne arrachée, il resta muet d'étonnement.
« Qu'as-tu fait là, petit malheureux ? Le roi va te corriger de belle façon, car il tient fort à ses raisins, et cette vigne en donnait de si beaux. »«
C'est votre faute, » dit Jean. « Pourquoi m'avez-vous donné un couteau de bois ?»
Le maître jardinier s'en alla trouver le roi. Pendant ce temps, Jean, tout penaud, se disait « Le roi va sûrement me mettre à la porte. » Puis il se souvint de sa mule et prenant sa baguette, « Par la vertu de ma petite baguette, à moi ma mule !» La mule arriva aussitôt.
« Qu'as-tu fait, mon ami, pour avoir besoin de moi ?»«
On m'a envoyé tailler cette vigne, mais comme je n'avais pour cela qu'un couteau de bois, je l'ai arraché. » »«
Ce n'est pas grand-chose que cela. Par la vertu de ma petite baguette, que la vigne soit taillée comme si le meilleur jardinier y avait mis la main et qu'elle se couvre aussitôt des plus beaux raisins qu'on ait jamais vus. » Aussitôt, tout cela s'accomplit, et Jean le Teigneux remercia bien sa mule qui disparut. Jean entendit le roi qui revenait avec son maître jardinier, et qui paraissait furieux. Il alla au-devant de lui jusqu'au portail.
« Qu'as-tu fait, Jean le Teigneux ? » dit le roi. « Le jardinier me dit que tu as arraché ma vigne ? » ?»«
Non, je l'ai taillée, il y a dessus du raisin, si beau que dans votre vie vous n'avez pas vu de pareil. »
« Allons voir, » dit le roi,
quand ils arrivèrent devant la vigne.
« Oh !» s'écria le roi, « est-ce que c'est vraiment du raisin qui est si gros ?»«
Oui, sire, je vais vous en cueillir une assiettée pour votre dîner. Il est excellent, car je viens d'y goûter. »
Le roi gronda son jardinier et lui reprocha d'être venu lui dire du mal de son garçon, qui méritait au contraire des éloges.
« Prenez garde de venir me faire une seconde fois des faux rapports sur ce garçon, » dit le roi en s'en allant.
Jean le Teigneux demanda au maître jardinier s'il n'avait point d'autre ouvrage à lui donner. Il lui ordonna de sarcler des carottes. Mais Jean arracha les carottes et laissa toutes les mauvaises herbes. Puis il vint dire au jardinier que sa besogne était faite. Quand le jardinier vit les carottes arrachées, il s'écria
« Qu'as-tu fait encore, petit malheureux ? Je vais aller le dire au roi !»
Aussitôt, Jean prit sa baguette et appela sa mule. « Qu'y a-t-il encore ?
On m'a envoyé sarcler des carottes et je les ai arrachées.
Ce n'est que cela ? Par la vertu de ma petite baguette, que les carottes soient plantées en terre, la mauvaise herbe ôtée et qu'elles deviennent grosses comme le poignet. »
Jean alla encore au devant du roi.
« Bonjour, sire.
Qu'as-tu fait ?
J'ai cerclé des carottes comme on me l'avait ordonné. » Quand le roi vit la planche bien nettoyée et les carottes deux fois plus grosses que celles que son jardin produisait d'habitude, il s'écria.
« Oh, maître jardinier, vous en voulez avec ce garçon ? Venez avec moi, je vais vous payer vos gages et lui va prendre votre place. »
Jean le Teigneux resta au jardin. Et le roi était content de lui car il faisait pousser des récoltes comme on n'avait jamais vu.
Le roi dit « Mon ami, tu vas rester comme maître jardinier et je te donnerai des garçons pour t'aider. »
« Non, sire, répondit Jean, je veux être seul dans votre jardin. Seulement, si vous voulez que je reste à votre service, il faut que vous me fassiez bâtir une petite maison près du portail et qu'elle soit construite pour demain. »
« Mon ami, dit le roi, tu me demandes une chose impossible. »
Cependant, le roi fit annoncer au son du tambour dans toutes les villes qu'il demandait un grand nombre de maçons, de charpentiers, de menuisiers et de tous les ouvriers nécessaires à la construction d'une maison, ajoutant qu'on ne regarderait pas au prix. De tous côtés, il arriva des ouvriers au château et le roi leur dit d'aller déjeuner bien vite dans sa cuisine et de se préparer à la besogne. Quand ils eurent mangé, les maîtres de chaque corps de métier vinrent demander les ordres du roi.
« Allez trouver mon jardinier !» leur dit le roi. « C'est lui qui va vous donner les plans. »«
Nous sommes à vos ordres, dirent les maîtres ouvriers à Jean le Teigneux. En ce cas, vous allez me construire une petite maison qui aura 30 pieds carrés et sera auprès du portail. Il ordonna au menuisier de lui faire un petit mobilier et au charpentier de préparer les poutres et la toiture de façon que tout fût prêt ensemble. Le lendemain, la maison était terminée. Jean s'y installa et tout venait à merveille dans son jardin. Jean avait 3 habits que lui avait donnés sa mule. L'un était couleur de lune, l'autre couleur des étoiles et le troisième était couleur du soleil. Et il se plaisait à les mettre quelquefois. Une nuit qu'il faisait clair de lune, il ôta son bonnet de teigneux, revêtut son habit couleur de soleil et, monté sur sa mule, alla se promener sur la terrasse du jardin. Le roi avait 3 filles et les fenêtres de l'appartement de la plus jeune donnaient sur la terrasse. La princesse, qui ne dormait point, était à sa croisée. En voyant se promener Jean, qui avait la mine d'un prince avec ses longs cheveux d'or, elle se pencha pour mieux le voir.
« Oh !» se dit-elle, « qui donc se promène ainsi avec de si beaux habits? Ne serait-ce pas Jean le Teigneux ?»
Pour s'en assurer, la petite princesse se hâta de descendre les escaliers 4 à 4. Mais Jean, qui était attentif à tout, s'en aperçut, et d'un coup de baguette, il fit disparaître ses habits et sa mule, et s'enferma dans sa maison. La princesse arriva en courant au portail du jardin et frappa à la porte de la petite maison en criant «
Jean, ouvrez-moi !»«
Qui est là ?»«
C'est moi. Ouvre bien vite, je veux te voir. »«
Toi, qui toi ?»«
La plus jeune des princesses. »«
Qu'est-ce qui vous amène ici ? Si votre père savait, il ne serait pas content. »«
Ouvre-moi, je t'en prie. Mon père n'en saura rien. Je connais ton pouvoir. »«
Du pouvoir, je n'en ai point. » Et si votre père vous savait ici, il me ferait couper le cou. » La pauvre princesse en alla fort dépitée et elle ne put fermer l'œil de la nuit. Le lendemain soir, Jean fit encore venir sa mule et se promena sur la terrasse vêtue de son habit couleur de lune. La princesse se hâta de descendre dès qu'elle l'aperçut. Mais lui avait été encore plus rapide à tout faire disparaître et à s'enfermer chez lui.
« Jean, dit la princesse, ouvre-moi bien vite, je veux te voir revêtu de ton bel habit. »«
Ah, répondit Jean, est-ce que vous allez prendre l'habitude de venir tous les soirs m'empêcher de dormir, au risque de me faire couper le cou par-dessus le marché? Allez-vous-en, laissez-moi tranquille. »
Jean resta à se reposer jusqu'au lendemain soir. Il pouvait bien rester au lit toute la journée, son jardin était soigné sans qu'il eût besoin de s'en occuper. Et pendant toute la journée, la petite princesse se promena dans le jardin, ne pensant qu'à son jardinier et aux moyens de le surprendre. Quand vint la nuit, Jean prit son habit couleur des étoiles et s'en alla se promener. La princesse sortit aussitôt, mais une fois de plus, elle arrivait trop tard à la porte de Jean le Teigneux.
« Ouvre-moi tout de suite, jardinier. Cette fois, je t'ai vu. Je suis sûre à présent que c'est toi qui te promènes tous les soirs dans ces beaux habits. »«
C'est encore vous ?» répondit Jean d'un ton brusque. « Allez-vous-en !» où je vais me lever sur le champ et prévenir votre père. »
La pauvre princesse retourna se coucher, le cœur bien gros, et elle ne dormit guère cette nuit-là. L'aînée des filles du roi avait envie de se marier. Elle dit à son père, « Puisque tu veux te marier, dit le roi, j'y consens. Mais si cela convient à tes sœurs, on pourrait faire les 3 mariages le même jour. » Après avoir consulté ses filles, le roi fit annoncer au son du tambour que les 3 princesses voulaient se marier et que le dimanche suivant, elles choisiraient chacune un époux. Voilà tous les seigneurs, les princes, les généraux et les amiraux qui arrivent dans la cour du château. Le roi fit ranger les prétendants sur 2 lignes et donna une boule d'or à chacune de ses filles en disant à l'aînée de choisir la première. La princesse jeta sa boule au pied d'un prince et sa sœur cadette en fit autant.
« Eh bien, dit le roi, c'est au tour de la plus jeune à présent. »
Oh, papa, répond la 3e princesse, tout le monde n'est pas ici.
Tu es bien difficile, ma fille.
On fit venir les officiers qui furent rangés sur 2 lignes. Mais la princesse jeta sa boule au pied du roi en disant, tout le monde n'est pas ici. Les marchands et les ouvriers furent appelés. Mais la princesse jeta encore sa boule à terre en répétant, tout le monde n'est pas ici.
Enfin, dit le roi, il ne manque plus que Jean le Teigneux. Qu'on aille le chercher.
Jean le Teigneux suivit l'envoyé du roi. Il portait de gros sabots, des habits tout usés et son vieux bonnet habituel. Comme il allait se mettre en ligne, il sentit une boule qui frappait ses sabots. Il se retourna tout ébahi en disant
« Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ?»
Tous ceux qui étaient présents se mirent à rire et à applaudir en disant « Vive Jean le Teigneux, c'est lui qui va épouser la princesse !»
Le roi n'était guère content de voir sa plus jeune fille épouser un jardinier, alors que les aînés épousaient des princes, mais il n'avait qu'une parole et les noces eurent lieu aussitôt. Mais quelques jours plus tard, il dit à la princesse « Ma fille, tu as épousé le jardinier, c'est ton affaire, mais c'est une honte pour moi. Aussi, tu comprends bien que vous ne pouvez pas loger au château. » Il fit meubler pour Jean le Ténu et sa femme une petite chaumière à l'autre bout du parc et garda auprès de lui ses deux aînés et leur mari. « Ma chère femme, dit Jean le Ténu, je suis bien content de ne plus être dans le château de ton père. Ici, nous serons bien plus tranquilles. Mais que vas-tu nous faire pour souper ?»«
Je n'en sais rien, dit la petite princesse. Que veux-tu ?
Mets des pommes de terre à bouillir et nous les mangerons avec un peu de lait caillé. »
Et c'est ainsi qu'ils soupèrent tous les deux.
À quelque temps de là, le roi déclara la guerre à un pays voisin. Jean le Ténu décida d'aller lui offrir ses services.
« Sire, est-il vrai que vous êtes en guerre ?»«
Oui, répondit le roi. Pourquoi me demandes-tu cela ?»«
C'est pour donner un coup de main à mes beaux-frères. »«
Toi, tu serais mort de peur avant d'être rendu à ton poste. Donnez-moi un cheval et un sabre et vous verrez. »
« Mon ami, tu viens trop tard. Il ne reste plus qu'un vieux cheval à trois pattes. Prends-le si tu veux. »«
Volontiers, mais il me faudrait un sabre.
Il m'en reste qu'un, tout rouillé et bréché. » »«
Ça ne fait rien, dit Jean. Je le débrouillerai dans le corps des ennemis. »
Jean le Ténu prit le sabre, dit au revoir à sa femme et monta sur le cheval qui n'avait ni selle ni bride. « Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. »
Le cheval était maigre et décharné et trébuchait à chaque pas.
Au bout de 5 heures, il n'avait encore fait qu'une demi-lieue. Comme il passait près d'un bourbier, son cheval y entra jusqu'au ventre et il ne put le retirer. Soudain, il aperçut ses beaux-frères qui passaient montés sur de magnifiques chevaux et précédés de clairons et de tambours. En voyant Jean le Ténu, ils éclatèrent de rire.
« En voilà un beau guerrier ! C'est lui qui tuera les ennemis !»
« Je n'en tuerai pas tant que vous, car je ne suis pas si bien équipé, mais je ferai ce que je pourrai, » répondit Jean d'un air modeste.
Ses beaux-frères continuèrent leur route, suivis de plus de 400 000 hommes. Quand Jean vit passer les derniers soldats, il les pria de l'aider à relever son cheval. Les uns le prirent par les oreilles, les autres par la queue, et ils le retirèrent du bourbier. Puis ils suivirent leur régiment. Lorsqu'ils eurent disparu, Jean descendit le cheval, le laissa paître le long du talus, et prit sa petite baguette en disant « Par la vertu de ma petite baguette, à moi ma mule !» La mule parut aussitôt et lui dit « Je suis mariée à la plus jeune fille du roi. Il y a une guerre, mes beaux-frères viennent de passer sur des beaux chevaux fringants, et moi, on n'a donné qu'une vieille rosse à trois pattes et un sabre tout ébréché.
« Ce n'est que cela, dit la mule. Prends ton habit couleur de soleil, monte sur mon dos et allons-y. »
Jean le Ténu et sa mule se mirent en route. Marche aujourd'hui, marche demain, et bientôt il vit ses beaux-frères à la tête de leur régiment. Il les dépassa sans détourner la tête et ils lui crièrent
« Ah, beau prince ! Arrêtez, beau prince ! Et attendez-nous !»
Mais Jean continua sa route sans les écouter et arriva en présence de l'ennemi. On hissa le pavillon qui était le signal du combat et Jean dit
« Quand vous y serez, je suis prêt. »
« Mais où est votre armée ? » demanda le roi ennemi.
« Je suis seul, avec ma mule, et c'est assez. »
Voilà la bataille qui commence. La mule s'élance au milieu des ennemis. Jean manœuvre son sabre à droite et à gauche, et en quelques minutes, une partie de l'armée est détruite. L'ennemi fit hisser un drapeau blanc en demandant une trêve jusqu'au lendemain. Et Jean retourna sur ses pas, emportant le drapeau en signe de victoire. Non loin de là, il rencontra ses beaux-frères.
« Bonjour, messieurs, où allez-vous comme ça ?»«
Beau prince, nous nous rendons à la guerre !»«
Vous n'avez pas besoin d'aller plus loin ?» dit-il en leur montrant le drapeau.
« Comment ? C'est vous qui avez gagné la bataille ?»«
Comme vous voyez, messieurs. » Les beaux-frères s'en retournèrent vers la ville et, en passant près d'une auberge, ils invitèrent Jean à boire un verre avec eux. Mais il refusa, disant que ce serait pour une autre fois, car aujourd'hui le temps pressait. Jean arriva à son vieux cheval boiteux qui pâturait le long du fossé, fit disparaître sa mule, retira son habit couleur de soleil, remit son bonnet de Ténu et remonta sur sa rosse. Celle-ci, qui ne marchait que sur trois pattes, resta embourbée au même endroit. Et quand ses beaux-frères passèrent auprès de lui, ils lui dirent
« En voilà un fameux guerrier ! Il en faudrait plus de 100 000 comme lui pour tuer un seul ennemi !» Ils continuèrent leur route et allèrent annoncer à leur beau-père qu'ils avaient gagné la bataille. Jean pria encore les soldats de l'aider à relever son cheval et rentra chez lui en se traînant. « Ah, ma femme, je suis là !» Sa femme lui servit à souper de la bouillie de blé noir et du petit lait, et il alla se coucher en lui recommandant de l'éveiller à 4 heures du matin parce qu'il voulait retourner à la guerre. Le lendemain, Jean Le Teigneux repartit de bonne heure sur son cheval à trois pattes, comme la veille. Il s'embourba et ses beaux-frères se moquèrent encore de lui en passant. « Mes amis, leur dit-il, ce n'est pas charitable à vous de rire de mon malheur. Je fais ce que je peux, et l'on verra par la suite comment j'ai réussi. » Les soldats l'aidèrent à se relever. Alors Jean appela sa mule, ôta son bonnet de teigneux et mit son habit couleur de lune. Il ne tarda pas à arriver en vue de ses beaux-frères. « Ah » dirent-ils en le voyant. « Voici encore le beau prince qui a gagné la bataille hier. Prince, arrêtez-vous un peu. »« Non, dit Jean, je ne peux pas m'arrêter, car ma monture est trop ardente. » Quand il arriva au champ de bataille, il lissa encore le pavillon pour dire qu'il était prêt. Le roi ennemi avait fait boire à ses soldats de la poudre et de l'eau de vie pour leur donner du courage. Mais quand le combat fut engagé, la mule se mit à sauter au milieu des ennemis et chaque fois qu'elle retombait, elle en écrasait plus de 100. Sans compter ceux que Jean tuait avec son sabre. Et il tirait sur lui sans pouvoir l'atteindre. Le roi ennemi ne tarda pas à hisser le drapeau blanc et à demander une trêve jusqu'au lendemain. Il donna à Jean un parchemin où il s'avouait vaincu. Jean reprit le chemin du retour, toujours monté sur sa mule. Il rencontra bientôt ses beaux-frères. « Voilà, dirent-ils, un prince qui fait du chemin. Où allez-vous, messieurs ?» leur demanda Jean. « Beau prince, nous allons à la guerre !» Il tira son parchemin de sa poche et leur dit qu'il était inutile d'aller plus loin puisque la bataille était remise à demain. « Dans ce cas, dirent-ils, descendez de cheval et venez vous rafraîchir avec nous. »« Non, répondit Jean, ma monture ne peut rester en place. » Le voilà reparti et il fut bientôt hors d'eux. Arrivé à son vieux cheval, Jean quitta sa mule, remit ses vieux habits et entra encore une fois dans le bourbier. En passant près de lui, ses beaux-frères lui dirent « Nous avons déjà gagné 2 batailles et ce fameux guerrier n'a pas encore bougé de place. » Les soldats aidèrent à nouveau Jean Le Teigneux et il se remit en route sur son cheval à 3 pattes. En rentrant à la maison, il dit à sa femme « Me voici de retour encore une fois, mais j'ai eu bien de la misère. » Après avoir soupé de galettes et de lait caillé, il alla se coucher en recommandant à sa femme de l'éveiller à 3 heures du matin cette fois. Les deux beaux-frères de Jean avaient dit au roi qu'ils avaient 2 jours de suite remporté la victoire. Mais il est bon de vous dire que le roi ne les croyait pas trop. Ses soldats lui avaient parlé d'un prince aux cheveux d'or, aux habits fabuleux, monté sur une mule qui, par 2 fois, avait fait des ravages dans le camp ennemi et qui avait disparu dès la bataille terminée. Le roi donna l'ordre à ses officiers de lui ramener le prince aux cheveux d'or, que celui-ci le veuille ou non. Le lendemain dès l'aube, Jean Le Teigneux se mit en route sur son cheval à 3 pattes. Marche aujourd'hui, marche demain. À force de marcher, on fait beaucoup de chemin. Comme les jours précédents, il appela sa mule, ôta son bonnet et mit son habit couleur des étoiles. Comme il passait auprès de ses beaux-frères, ceux-ci lui dirent « Voici encore un beau prince, mais ce n'est pas celui d'hier, son habit est bien plus éclatant. Beau prince, attendez-nous !»« Non, dit Jean, c'est impossible, ma monture ne veut pas s'arrêter. »« C'est le même prince qu'hier, observa l'un des beaux-frères, je reconnais sa mule !» Arrivé au champ de bataille, Jean Le Teigneux hissa le pavillon du signal et s'élança au milieu des ennemis avec sa mule. Ses longs cheveux d'or étincelaient au soleil. Cette fois, il détruisit à lui tout seul presque toute l'armée et le roi ennemi arbora le drapeau blanc en disant « La guerre est terminée, je demande la paix. » En signe de reddition, Jean exigea tous les drapeaux de l'armée et s'apprêta à rentrer chez lui. L'officier, qui avait été chargé de le ramener à son beau-père, essaya en vain de l'arrêter. Voyant qu'il allait lui échapper, il le frappa à la cuisse de sa lance. Jean arracha la lance et la jeta aux pieds de l'officier et s'élança sur sa mule. Mais le bout du fer de la lance lui était resté dans la cuisse. En son chemin, Jean Le Teigneux rencontra ses 2 beaux-frères. « Où allez-vous comme cela, mes amis? Je vous trouve tous les jours au même endroit. Nous allons à la guerre. Vous n'avez pas besoin d'avancer davantage, la guerre est finie.
Est-ce possible ? S'écrièrent-ils.
Rien n'est plus sûr. Voyez vous-même, dit Jean. Et il leur montra les drapeaux ennemis.
Dans ce cas, acceptez de prendre un petit verre avec nous.
Bien volontiers.
Jean descendit de sa mule et l'attacha à la porte de l'auberge. Puis il entra avec les princes et commanda trois petits verres.
Ah ! Dirent les princes, si vous vouliez nous donner ces drapeaux, cela nous mettrait bien avec notre beau-père, car nous sommes nouvellement mariés.
Je veux bien, mes amis, répondit Jean, mais attendez-moi quelques instants, j'ai besoin d'être seul dans une chambre pour écrire, et je vous remettrai ensuite les drapeaux. Jean s'enferma dans une chambre et découpa un morceau au milieu de chaque drapeau qu'il mit dans sa poche. Puis il replia les drapeaux et alla les donner à ses beaux-frères.
« Est-ce que vos dames ne vous ont pas fait quelques cadeaux quand vous êtes partis pour la guerre ?»«
Si, dit l'un des beaux-frères, la mienne m'a donné un anneau dans lequel nos deux noms sont gravés. Ma femme, ajouta l'autre, m'a fait le même cadeau. »«
Eh bien, dit Jean, remettez-moi ces anneaux et je vous donnerai le drapeau en échange. Mais je veux aussi que vous ôtiez vos culottes, afin que je marque le sabot de ma mule sur chacune de vos jambes. Cela ne vous fera pas grand mal et personne ne le saura. »
Les princes hésitaient un peu, mais ils durent en passer par là pour obtenir les drapeaux et lui dire «
Beau prince, quand vous passerez par chez nous, ne manquez pas d'entrer au château et de nous rendre visite. »
« Oui, mes amis, je vous le promets, mais il est temps que je parte car je suis pressé. »
Jean remonta sur sa mule, marche aujourd'hui, marche demain, arrivant enfin à son vieux cheval à trois pattes et le fit s'enfoncer dans le bourbier. Peu de temps après, les beaux-frères passèrent auprès de lui.
« En voilà un fameux guerrier. Tu n'es pas comme nous. Nous avons emporté la victoire. Regarde le drapeau. Ah, comme le roi va nous faire fête !»
Ils crachèrent sur lui en passant. Mais leurs soldats eurent pitié de Jean, relevèrent son cheval et le remirent en selle. En arrivant chez lui, Jean le Ténu dit à sa femme « Prépare mon lit, car je suis blessé. »
« Je vais faire venir le médecin de mon père, » dit la princesse.
Et elle alla au palais et demanda à parler au roi. On la laissa monter seule et elle le pria d'envoyer son médecin pour soigner son mari. Il y consentit. Le médecin arriva, sonda la plaie de Jean, vit qu'il y avait dedans quelque chose de dur et retira un morceau de fer.
« Docteur, dit Jean, ayez la bonté de me donner ce bout de fer que vous venez d'ôter de ma jambe. »
Jean serra soigneusement le fer de lance. Le médecin pansa sa plaie et il eut vite fait de guérir.
Quelques jours après, Jean le Ténu dit à sa femme. « Depuis que nous sommes mariés, nous avons encore reçu personne ici. Il faut inviter tes parents, tes sœurs et tes beaux-frères à venir manger un morceau. Tu inviteras aussi le médecin qui m'a guéri. »
Le jour venu, la princesse se leva de bonne heure pour préparer le dîner. Mais elle ne trouva chez eux que des pommes de terre et de la farine de blé noir.
« Que faire ? » dit-elle à son mari.
« Te voilà bien embarrassée pour peu de choses. Comme entrée, tu serviras des pommes de terre bouillies. Ce n'est même pas la peine de les éplucher. » Puis tu serviras de la bouillie de blé noir et enfin des galettes de blé noir pour le dessert.
Alors convenu, le roi arriva avec toute sa famille. Il y avait sur la table une petite nappe qui ne la couvrait pas tout entière et tout autour des escabeaux qu'on avait été emprunter chez les voisins. Quand on apporta les pommes de terre bouillies, Jean dit « Il y a des oignons crus et un peu de beurre salé pour ceux qui n'aiment pas les pommes de terre. » Les convives ouvraient des yeux bien étonnés devant ce repas. Mais le roi jeta un coup d'œil à ses gendres qui se mirent à manger. Mais ils laissèrent le plus des trois quarts du plat.
« Ne vous forcez pas à manger de ceci, » disait Jean, « il y a encore d'autres plats. »
On servit ensuite de la bouillie de blé noir, mais la famille royale y fit peu honneur.
« Pour le dessert, dit Jean, je vais vous donner de la galette et quelques pommes que je vais aller cueillir à mes pommiers. »
À la fin du repas, on décida que chacun dirait sa petite histoire. Ce fut le roi qui commença.
« J'ai marié mes trois filles, dit-il. Les deux aînées ont épousé des princes qui sont auprès de moi, et dont je suis content, car ils viennent de remporter la victoire. La plus jeune a voulu se marier avec Jean le Ténu, ici présent. C'est un bon garçon et je n'ai rien contre lui. Mais ma fille n'a pas agi comme il convient à une princesse. »
L'aîné des beaux-frères dit à son tour. « Nous avons été à la guerre. Le premier jour, les ennemis ont demandé une trêve jusqu'au lendemain. Nous avons eu bien du mal, mais nous n'avons pas perdu un seul homme. » Le deuxième jour, nous avons encore remporté la victoire. Le troisième, les ennemis furent entièrement défaits. Ils ont demandé la paix et le roi nous a remis ses drapeaux. Mais nous avons été bien aidés par un beau prince inconnu qui s'en est allé après la victoire.
Si vous revoyez ce prince-là, dit Jean le Ténu, est-ce que vous le reconnaîtriez ?
Sans aucun doute, dirent les beaux-frères, car il avait des cheveux d'or et ses habits étincelaient.
Jean sortit par la cuisine avec sa petite baguette.
mit son habit couleur de soleil, appela sa mule et faisant le tour par la grande route, il repassa devant la porte de Jean le Ténu. Au bruit que fit la mule, les invités regardèrent par la fenêtre. « Voilà le beau prince !» s'écria les gendres du roi.
« Demandez-lui de s'arrêter !» dit le roi, « bien que je ne puisse guère le recevoir comme il le mérite dans cette chaumière. »
Le prince aux cheveux d'or et aux habits couleur de soleil entra. « Nous parlions justement de vous, prince !» dirent les gens.
Les gendres. « En vérité ?»«
Oui, nous racontions à notre beau-père que la guerre avait été dure et que vous nous aviez donné un fameux coup de main. »«
Qu'est devenu Jean de Lotaigneux ?» dit le roi. « Mais puisqu'il n'est pas là, mettez-vous à table. Nous sommes ici chez des gens bien pauvres. Mais une autre fois, je vous traiterai mieux. »«
Voilà des pommes de terre !» dit le prince aux cheveux d'or. « C'est tout ce qu'il me faut. » Il mangea de bon appétit des pommes de terre et du lait caillé, puis de la bouillie de blé noir, et enfin deux ou trois galettes pour son dessert. Quand il finit, il dit au roi « Sire, faut gens de Presnande qu'ils ont emporté la victoire. Lequel est le vrai vainqueur, à votre avis? Celui qui a le milieu des drapeaux ou celui qui en a les côtés ?»«
Celui qui a le milieu, dit le roi, sans aucun doute. »«
Mesdames, dit Jean le Ténu à ses belles-sœurs, aviez-vous fait quelques présents à vos maris quand ils sont partis à la guerre ?»«
J'ai donné au mien un anneau portant nos deux noms enlacés, dit l'aîné.
Et moi de même, dit la cadette. » Les deux gendres commençaient à ouvrir de grands yeux.
« Sire, dit le prince aux cheveux d'or, j'aimerais que vous envoyiez chercher les drapeaux. »
Le roi dépêcha son domestique au château. Il ne tarda pas à rapporter les drapeaux, et quand ils furent étendus sur la table, on vit qu'il manquait à tous un morceau au milieu. Le prince aux cheveux d'or sortit les morceaux d'étoffe d'une petite boîte et les jeta sur la table en disant au roi de voir s'il s'adaptait au trou des drapeaux. Il y allait parfaitement, et la petite princesse commençait à se réjouir, pensant bien que c'était au tour de Jean le Ténu qu'elle avait reconnu depuis longtemps. Il ouvrit une petite boîte et en sortit deux anneaux et demanda à ses belles-sœurs si elles les reconnaissaient.
« Oui, répondirent-elles toutes les deux, ce sont bien là ce que nous avons donné à nos maris. »
Jean le Ténu dit au roi, « Sire, il y a encore une chose. Je désirerais que les princes ôtent leurs culottes. Ils doivent avoir encore sur leur peau l'empreinte du sabot de ma mule. » Les princes durent s'exécuter bien à contre-cœur et dévoiler devant tous les invités la marque du coup de pied infamant. Le roi était de plus en plus surpris.
« Eh bien, dit Jean, est-ce moi qui ai emporté la victoire ou bien les princes ?»«
Ah, répondit le roi, c'est sûrement vous. »«
Docteur, poursuivit Jean le Ténu, ne vous souvenez pas d'avoir ôté de ma jambe un morceau de fer ?»«
Si, répondit le médecin.
Ce morceau de fer, sire, est le bout de la lance de votre officier qui m'a frappé si durement qu'un morceau en est resté dans la plaie. On alla chercher l'officier et on vit que le morceau de fer s'adaptait à la lance.
Eh bien, dit le prince aux cheveux d'or, c'est moi qui suis Jean le Ténu.
À ces mots, la petite princesse lui sauta au cou, puis courut embrasser son père, sa mère et ses sœurs. Le roi, en colère, se tourna vers ses gendres.
Sortez sur le champ, leur dit-il. « Vous m'avez trompé et je vais vous exiler. Quant à toi, Jean le Ténu, tu vas venir demeurer avec moi dans mon palais. Je t'avais déjà donné ma fille, je te donne maintenant ma couronne et mon royaume. »
Et voilà mon Jean le Ténu et sa femme qui s'installent au palais du roi. Et s'ils ne sont pas morts, ils y vivent encore. Et mon conte est fini.